Calade.
Allez, tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Pif Paf qu'on retrouve avec grand plaisir. Bonjour Pif Paf.
Salut Mathieu, ça va bien ?
Ça va bien et toi ?
Oui, je tousse un peu. Bonjour à toi, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, que te raconter aujourd'hui ?
Alors là, j'ai cru comprendre qu'on allait partir un petit peu dans des zones écologiques. Je me suis laissé penser ça.
Oui, alors quand tu parlais de la chanson, tu as dit que c'était un morceau plein d'énergie. Eh ben justement, on va en parler de l'énergie, et entre autres, on va parler de l'énergie nucléaire. Alors, 43 ans au compteur pour Fessenheim. Comme toutes les centrales nucléaires françaises actuellement en activité, Fessenheim a été conçu initialement pour fonctionner 40 ans maximum. Au-delà, les réacteurs entrent dans une phase de vieillissement qui n'a pas été prévue par les ingénieurs et que la filière nucléaire ne maîtrise pas. La doyenne donc du parc nucléaire français a bien mérité son départ à la retraite. Elle est située en zone sismique et susceptible d'être inondée, avec des micro-fissures sur la cuve du premier réacteur, des joints et composants obsolètes, un générateur de vapeur non conforme, des arrêts prolongés, plus de 15 incidents sur chaque réacteur. Il était temps d'intervenir. Même rénovée à grands frais, la centrale de Fessenheim n'aurait pas pu atteindre les exigences de sécurité imposées aux réacteurs plus récents comme l'EPR. Sa fermeture était absolument nécessaire pour limiter les risques accidentels pour la France, mais aussi pour l'Allemagne et la Suisse, situées à quelques dizaines de kilomètres à peine, car la radioactivité ne s'arrête pas aux frontières. Cette fermeture n'est que le début d'un long processus. La prochaine étape, c'est le démantèlement ou la déconstruction de la centrale. Et là, on part dans l'inconnu. Fessenheim arrête de produire de l'électricité, mais le site est loin d'être définitivement fermé. Il faut désormais démanteler l'installation nucléaire et évacuer du site la totalité des substances dangereuses ou radioactives. Ces opérations sont prévues pour s'étaler sur une durée de 20 à 30 ans, nous dit-on, ou bien plus longtemps, car EDF traîne les pieds. En 2016, EDF annonçait vouloir reporter le démantèlement des vieux réacteurs nucléaires de la génération précédente de plusieurs décennies, ce qui signifie que le réacteur ne serait toujours pas complètement démantelé d'ici à la fin du 21e siècle. EDF évoque des problèmes techniques, mais en réalité, le problème est surtout d'ordre financier. Le démantèlement, c'est une opération qui coûte extrêmement cher et qui ne rapporte pas d'argent. Il génère des volumes de déchets radioactifs importants qu'il faut ensuite stocker et gérer quelque part, mais où ? Et pendant des millénaires pour certains types de déchets et qui pèsent sur le bilan de l'entreprise et sur la sécurité de la population. Mais à ce jour, personne dans le monde ne sait comment démanteler une centrale nucléaire et aucun pays, à ce jour, n'y est encore parvenu. Prenons le surgénérateur Superphénix de Malleville dans l'Isère. C'est le 5 mars 1974 que le Premier ministre français Pierre Messmer présente officiellement Superphénix, un gigantesque projet de surgénérateur. En théorie, un réacteur de ce type doit produire plus de matière fissile qu'il n'en consomme. Alléluia. Les surgénérateurs devraient donc régler pour des millions d'années le problème de l'énergie en produisant de l'électricité tout en démultipliant la quantité de matière fissile disponible. Facile sur le papier. Cependant, à supposer que le réacteur fonctionne correctement, ce qui n'a jamais été le cas, la récupération des matières fissiles produites, du plutonium-239, nécessite d'importantes opérations dites de retraitement, plus exactement d'extraction. Malgré l'échec total de Superphénix, la filière française de retraitement fonctionne toujours, on ne sait pas pourquoi. Et elle produit toujours à La Hague, dans la Manche. C'est une usine des plus polluantes du monde. Le site choisi donc pour implanter Superphénix fut Cresmalville, commune de l'Isère, située à une quarantaine de kilomètres de Chambéry et de Lyon, mais aussi à 70 kilomètres de Genève. De fait, les Suisses se sont logiquement sentis tout aussi menacés que les Français. En effet, le danger potentiel de Superphénix est extrême. Le refroidissement du cœur se fait par 5000 tonnes de sodium liquide, un produit, le sodium, qui peut s'enflammer spontanément au contact de l'air libre et exploser au contact de l'eau. Le réacteur contenant par ailleurs plusieurs tonnes de plutonium, tout incendie ou explosion, peut condamner une partie de l'Europe pour des siècles. En toute logique, la mobilisation antinucléaire a été internationale, les Français étant rejoints par les Suisses, les Italiens, des Allemands. Des manifestations massives ont eu lieu. Le 4 juillet 76, plus de 20 000 personnes se rassemblent. 200 manifestants réussissent à pénétrer dans la zone interdite qu'ils occupent jusqu'au 8 juillet, avant d'être délogé manu militari. La violence policière a été forte à l'encontre de ces manifestants. Le 31 juillet 1977, ce sont plus de 50 000 manifestants qui se rassemblent devant Superphénix. Le pouvoir français, fanatique défenseur de son idéologie radioactive, a rassemblé de puissantes forces armées. Le résultat ne se fait pas attendre, plusieurs centaines de blessés et surtout un mort. Vital Michalon, 31 ans, victime du souffle de l'explosion d'une grenade. Le pouvoir parle à propos de sa mort d'une simple crise cardiaque, bien sûr. En vérité, Superphénix ne fonctionnera jamais correctement et connaîtra même une suite ininterrompue d'incidents, dont certains extrêmement inquiétants. Dès 1987, une fuite de sodium entraîne l'arrêt du réacteur pour 20 mois. Les pépins se multiplient. Il faudra attendre 1997 et l'arrivée des Verts dans le gouvernement de Lionel Jospin pour que la décision soit prise de stopper le surgénérateur. La France aura principalement assumé les déboires financiers de l'aventure qui, selon la Cour des comptes, très sous-estimée, aura coûté plus de 10 milliards d'euros. Malgré sa mise à l'arrêt, Superphénix continue à coûter quelques 150 millions d'euros par an, par exemple pour les frais de chauffage du sodium afin de le maintenir sous forme liquide. Ce sodium hautement inflammable, bien entendu, il n'est pas tout seul. Pour le démantèlement, il faut décharger les 650 assemblages du cœur et enfin engager la déconstruction de l'installation. Et ça a commencé le 1er décembre 1999. C'est vieux. Il y a donc bien plus de 20 ans. Qu'est la durée généralement annoncée pour un démantèlement? On n'en est même pas au début. La prévision donc de démantèlement, c'était mi-octobre 2000. Eh ben non, ça continue à tourner. Mais voilà, le démantèlement n'est pas un long fleuve tranquille et la radioactivité est toujours puissamment présente sur le site. Le 30 juin 2020, donc il y a 3 jours, le feu s'est déclaré au cœur des installations de la centrale nucléaire dans un atelier de découpe situé dans le bâtiment réacteur du site de Crémalville. Les équipes de la centrale étaient en train de procéder au retrait des protections thermiques du bouchon tournant en préparation de son démantèlement. L'alarme incendie s'est aussitôt déclenchée et les salariés du site se sont tous regroupés dans le calme, à l'extérieur du bâtiment, à l'abri. Les équipes de sécurité de la centrale ont pris en charge les premières interventions, ensuite les pompiers sont arrivés. 2 salariés d'une entreprise prestataire ont été incommodés par les fumées et pris en charge immédiatement par l'équipe médicale du site, puis par les pompiers. Une des victimes a été conduite à l'hôpital de Bourgoin-Jallieu pour des observations complémentaires. Selon la direction, l'événement n'a pas eu de conséquences pour l'environnement. La préfecture de l'Isère a déclaré qu'il s'agissait, bien entendu, d'un incident mineur. Tout comme le mercredi 22 janvier 2020, juste 2 mois avant, où une alarme incendie s'est déclenchée dans la centrale. Les sapeurs-pompiers ont aussitôt déployé un dispositif. Les reconnaissances ont permis d'établir qu'effectivement, un début de feu dans une armoire électrique située au sous-sol d'un bâtiment administratif, voilà, avait eu lieu, sans conséquence, bien sûr, sur les zones sensibles, bien sûr. Ça prend souvent feu, ces usines à l'arrêt, quand même. We'll be right back. Voilà, c'était Arnaud, le chanteur belge, qui a créé ce morceau qui s'appelle Nuclear Summer, et qui, dont il a légué tous les droits à Greenpeace en Belgique. Alors, on parlait un petit peu des incidents sur le site de Crémalville. Et ben, ça me rappelle, entre autres, le 14 décembre 2018, où un incendie s'est déclaré sur un transformateur à l'extérieur du site et a engendré une coupure électrique générale. Selon EDF, les diesels de secours ont bien démarré, mais ils n'ont pas pu alimenter toutes les installations du site. C'est ballot, non ? L'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, précise que le démarrage automatique n'a pas fonctionné. Il a fallu procéder à un démarrage manuel avec une manivelle, des sources électriques de secours. La piscine de l'atelier pour évacuation du combustible nucléaire n'a plus été refroidie durant plusieurs heures. Les équipes ont été mobilisées, la préfecture et l'ASN prévenues. Et ce n'est que le lendemain que l'alimentation électrique a été rétabli sur la totalité du site. Et ce n'est que 4 jours plus tard, bien sûr, que la population a été prévenue. Et tout cela me rappelle aussi le 17 janvier 2018, un mois après l'accident dont on vient de parler, un mois plus tard, donc, quand un réservoir contenant un mélange de sodium et de potassium, alliage très réactif au contact de l'air et de l'eau, est découpé dans un atelier sur le site de Crémalville. Sauf que l'exploitant a mal estimé la quantité de solution restant dans le réservoir et l'a manipulé sans les précautions nécessaires. La solution toxique s'est répandue et a commencé à réagir au contact de l'air ambiant, conduisant à la formation de gaz, de chaleur, de superoxyde, une matière très réactive. Alors, des mesures d'urgence ont été prises, bien entendu. Alors, j'en oublie plein, hein. Des accidents, car dans ce type d'installation, on ne parle pas d'incident, on parle d'accident. Comme par exemple ce dégagement de fumée qui s'est déclaré un jeudi soir d'août 2013 dans la centrale en cours de démantèlement. Une alarme automatique a relevé dans un local technique abritant du sodium, potentiellement explosif et inflammable, un dégagement de fumée autour d'un tuyau et des résistances qui chauffent. Alors bon. Alors ces démantèlements, on va y arriver. Et ben, le choix de la filière nucléaire a été imposé aux Français sans aucune consultation démocratique. Outre les risques liés à l'activité des installations et ceux liés à la gestion des déchets, un troisième type de problème doit aujourd'hui être pris en compte, donc celui du démantèlement. Eh ben oui, il existe en France 121 installations nucléaires et 58 sont en cours ou vont être en cours de démantèlement. On ne sait pas comment ça va se passer. Alors la population qui s'est vue imposer le nucléaire sans aucune consultation démocratique et parfois par la violence doit pouvoir à présent s'impliquer dans les discussions visant à réparer les erreurs du passé. Au vu de l'ampleur des chantiers à venir, il est en effet impensable de gérer ces travaux de démantèlement site par site selon des stratégies variables et confidentielles. Il faut que tout le monde soit informé et avoir une vraie politique de démantèlement et de production d'énergie. Et voilà la Convention citoyenne pour le climat, hein, qui vient de rendre sa belle copie, hein, avec plein de choses avec lesquelles je suis d'accord. Eh ben, elle ne s'est pas penchée sur l'énergie nucléaire.
Ah ouais, c'est absent des textes.
C'était pas prévu qu'on en parle. On parle de quelle vitesse on va rouler sur les autoroutes, mais on parle pas de produits, de déchets radioactifs, de centrales qu'on ne sait pas démonter, et on ne parle pas non plus de ces produits qui pendant des millénaires vont être là, enterrés, et qui va les gérer, qui va payer tout ça. Croyez-vous que c'est une société dans l'état financier, économique et EDF qui arrive plus à s'en sortir, qui va gérer tout ça? Non, bien entendu, qui va reprendre ça à sa charge pour des millénaires, je rappelle. C'est l'État. Et donc, c'est nous. Voilà.
Et l'année dernière, tu nous parlais de cette convention et de qu'est-ce qui va lui, qu'est-ce qui va devenir, est-ce qu'elle va être mise en place?
Eh ben voilà, donc il s'est exprimé, Jupiter, en face des membres de cette convention. Alors il a illuminé des trucs, hein, les 100 km sur l'autoroute. Il a dit, bah, vous avez vu ce que ça m'a coûté les 80, je vais pas recommencer. Il a éliminé aussi le fait qu'on taxe de 4% tout l'argent que gagnent les grands spéculateurs et voilà, sur l'argent qui touche. Ça, c'est éliminé parce que c'est ses potes, hein, faut quand même pas exagérer. Et puis après, il a dit, bah, le reste, on va voir, hein, on va créer des commissions. Peut-être qu'il y aura des référendums, on va voir. Peut-être qu'il y aura des lois, on va voir. Voilà, on va voir.
Il y a déjà des trucs sur la 5G qui ont été totalement ignorés.
Et bien entendu, c'est la 5G qui est complètement inutile. Si tout le monde déjà avait la fibre, ça serait pas mal. La 5G, c'est un gouffre. Hein. Il faut savoir, tous ces big data, tous ces gros centres de production de l'information, de traitement, ça a une consommation dans le monde phénoménale qui équivaut à plusieurs centrales nucléaires, justement.
Passer en 5G, ce serait augmenter de 30% notre consommation d'énergie.
Tout à fait, tout voilà. À fait.
C'est l'heure des informations. Merci beaucoup, Pif Paf, pour ces chroniques.
Salut, et puis bon été à toutes et bon été à tous et bon été à toi, Mathieu.
Merci. Calade. Il est 13h.